France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, c'est une vaste réforme qui revient à l'Assemblée nationale en deuxième lecture cet après-midi. Une réforme globale de toute la machine juridique et judiciaire et elle suscite pas mal de mécontentement. Avocats et magistrats font front commun avec des appels à manifester aujourd'hui à Paris et c'est pour cela que nous avons deux invités aujourd'hui. Bonjour Katia Dubreuil.
Bonjour.
Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature et bonjour à vous Basile Adair.
Bonjour.
Vous êtes vice-bâtonnier de Paris. Alors pour chacun d'entre vous, quel est selon vous donc le point noir de cette réforme, Katia Dubreuil?
Écoutez, c'est difficile de choisir puisque l'ensemble du texte est pour nous un projet de rationnement qui a pour but de faire des économies et qui réduit drastiquement les droits des justiciables, que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan de l'accès aux droits pour tous et pour toutes.
De quelle façon?
Eh bien, par exemple, en ce qui concerne l'organisation judiciaire, la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, ça met fin à une justice qui est très importante, qui est la justice de proximité, notamment pour les personnes les plus vulnérables, avec une facilité de saisir cette juridiction d'instance qui va disparaître avec la fusion.
Mais le gouvernement assure pourtant qu'aucun tribunal ne fermera et qu'il y aura toujours de la proximité.
Oui, ce n'est pas une question de... Alors, il y a effectivement un discours qui tend à vouloir rassurer en disant qu'il n'y aura pas de fermeture de juridiction, mais quand on fait des mesures de fusion administrative qui permettent de, finalement, mettre les personnels en commun, à terme, il peut y avoir une dévitalisation des juridictions et des fermetures.
Alors, je continue à donner les arguments du gouvernement. Hein. Là, dans cette réforme, dans cette mesure, en tout cas, le but, c'est de simplifier et qu'il y ait une seule porte d'entrée pour tous les contentieux.
Oui, en fait, cette simplification, on n'en a pas besoin. On n'avait pas identifié un problème pour identifier la juridiction compétente. En revanche, il y avait une juridiction facile d'accès, peu coûteuse, gratuite pour les personnes, pour laquelle il suffisait de se présenter au greffe pour exposer son cas, pour avoir accès à un juge et pouvoir lui parler, lui donner ses arguments. Et c'était un juge qui était en mesure de pouvoir dégager les règles de droit et faire régner un ordre public de protection par rapport aux personnes. Et demain, si on doit saisir cette justice par ordinateur, ça deviendra inaccessible pour les citoyens.
Et pour vous, Basile Adair, quelle est la mesure sur laquelle vous ne lâcherez pas?
D'abord, sachez que nous souscrivons tout à fait à tout ce qui vient de vous être dit. Deuxièmement, c'est sans doute la réforme judiciaire la plus importante depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la procédure civile, à la procédure pénale.
Oui, ça touche à tout.
Ça touche à tout. Donc c'est un texte majeur. Mmh.
Or, il fallait réformer. Alors, avant de rentrer dans le détail de la mesure, est-ce qu'il fallait réformer selon vous?
Le problème.
Ou est-ce que le monde judiciaire va bien?
Il y a toujours besoin de réformes parce qu'il faut, que ces textes continuent de s'adapter au monde qui va, et notamment sur le terrain numérique. De ce point de vue-là, il y avait sans doute quelque chose à faire. Mais tout bouleverser simplement pour gérer la pénurie, car fondamentalement, l'unique raison de ce texte, c'est faire des économies, c'est-à-dire rendre l'accès au droit plus difficile.
Mais quand on demande à tout le monde de faire des économies, il n'est pas normal qu'il en ait aussi dans le domaine de la justice?
Sauf que c'est de la troisième mission régalienne de l'État, que comme on vient de vous le dire, nous sommes le pire budget de la justice par habitant. C'est-à-dire que par habitant, on dépense deux fois moins que nos autres grands pays occidentaux. Et encore, eux ne mettent pas les prisons dans le budget de la justice. Mmh. Or, comme je confirme que la grande augmentation, quand je mets des guillemets autour de grande, qui nous est promise, sera essentiellement consacrée à construire des prisons.
Mais là, bon, cette réforme, puisqu'on parle d'argent, le budget est en hausse, 24% sur le quinquennat, c'est pas rien.
Oui, mais sur ces 24%, vous avez 90% presque qui sera consacré à construire des prisons. Donc, oui.
Et on n'a pas besoin de construire des prisons?
Le problème, vous savez, c'est qu'on observe qu'à chaque fois qu'on en construit, on les remplit aussitôt. Hein, c'est le phénomène américain. Donc, vous pouvez en construire. C'est une forme d'appel du vide. Certes, il faudrait que les prisons soient plus dignes, qu'il n'y ait pas toute cette surpopulation. Mais c'est sans doute par la voie de l'alternative à la prison. Donc, s'il y a quelque chose qui va bien dans ce texte, c'est la partie sur l'exécution des peines. Mais pour répondre à votre première question, parce que je m'aperçois que je n'ai pas répondu, ce qui nous préoccupe plus les avocats, c'est la disparition à terme annoncée du juge d'instruction. Qui n'aura plus, le procureur général de la Cour de cassation le disait hier à la rentrée, plus que 2% des affaires.
Donc vous, c'est le volet de la réforme de la procédure pénale.
La réforme de la procédure pénale.
Pourquoi? Quel est le point?
Qui dit disparition du juge d'instruction, dit disparition des droits de la défense. Mm-hmm. Tous les combats que nous avons menés depuis 100 ans, depuis 1898 et l'entrée de l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction, c'est des acquis que nous avons obtenus dans le cadre de l'instruction préparatoire. Parce que pendant très longtemps, le juge d'instruction était le personnage central de la phase préparatoire du procès pénal. Or aujourd'hui, avec ce texte, on va encore plus dans le sens qui était déjà celui qu'on observe depuis une vingtaine d'années, de laisser au parquet, c'est-à-dire au procureur de la République, qui n'est pas un magistrat du siège.
On donne plus de pouvoir au parquet.
De faire toutes les phases d'enquête. Et toutes les mesures les plus intrusives aujourd'hui, les plus importantes, parce que techniquement, les plus efficaces d'enquête
comme,
que sont...
Comme quoi les écoutes, la géolocalisation, des choses
comme
ça.
La géolocalisation, les écoutes téléphoniques et les perquisitions, qui encore aujourd'hui ne peuvent être ordonnées pour la plus grande majorité des infractions que par un juge d'instruction, c'est-à-dire par un magistrat du siège, un juge d'instruction auquel on peut accéder quand on est avocat, dont on peut contester les décisions en saisissant la cour d'appel. Le parquet pourra les faire tout seul dans son coin, puisque aujourd'hui, les avocats n'ont pas accès à toutes les phases de l'enquête. Hein, et qu'il faut attendre la fin. Pardonnez-moi, mais ça nécessite quelques explications, parce que les citoyens doivent savoir
très peu de temps,
que les droits de l'avocat, c'est pas des droits corporatistes, c'est les droits du citoyen, c'est le droit du justiciable. Que ce qu'il soit la victime, d'ailleurs, ou le prévenu.
Katia Dubreuil.
Je trouve ça très important de dire aussi que ce ne sont pas que les avocats et les magistrats qui vont manifester aujourd'hui, ce sont toutes les professions de justice, notamment les personnels de greffe, qui sont exsangues actuellement, les éducateurs, les conseillers d'insertion et de probation qui s'occupent des condamnés, et puis tout un certain nombre d'associations de défense des droits des citoyens, comme la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons, les étudiants en droit et des confédérations syndicales nationales. Donc on a vraiment autour de ce projet la volonté de dire que ce ne sont pas des professions qui défendent leurs intérêts, on défend les intérêts du citoyen, comme vient de le dire Maître Adair, et ce projet met en danger les droits de chacune et chacun, l'accès à l'exercice de ces droits sur le plan civil et la garantie des libertés fondamentales sur le plan pénal.
Est-ce que vous avez des échanges ?
Je crois qu'on a rarement vu, non mais j'insiste là-dessus, vous avez tout à fait raison, Madame Dubreuil, rarement vu un tel consensus
entre
de
toutes
tout
les
le personnel
professions.
Judiciaire contre un texte. Vous avez les deux principaux syndicats de magistrats.
Et est-ce
qui
que vous discutez
d'accord.
avec la ministre ? Est-ce qu'il y a des échanges ?
Il y a eu des échanges tout au long de l'année.
Encore aujourd'hui.
On n'a jamais rompu le contact.
D'accord.
On a dit qu'on avait des propositions, elles n'ont pas été entendues. On a dit qu'on voulait discuter sur la base d'un texte. Il nous a été donné au dernier moment. On a à chaque fois été un peu menés en bateau, mais nous n'avons jamais rompu le dialogue parce que nous avons toujours voulu dire ce que nous souhaitions. Et là, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le Premier ministre nous reçoive à l'issue de cette manifestation, parce qu'il n'est pas admissible qu'on passe en force sur un tel texte dans un contexte où par ailleurs on dit il y a un grand débat national, notamment sur le service public et sa répartition sur le territoire.
Si je peux ajouter juste quelque chose.
10 secondes.
Oui, il y a un grand débat sur la justice sociale, la justice fiscale, mais avant la sociale et fiscale, il y a justice tout court. Et donc là, il me semble que cette question doit participer de ce débat.
Merci à tous les deux, Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, et Basile Adair, vice-bâtonnier de Paris. Vous étiez les invités du 5-7 ce matin.